France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Mardi 17 septembre, bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les élections législatives en Israël. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir après une campagne très dure où Benjamin Netanyahou, qui joue sa survie politique, a multiplié les provocations verbales. Nous serons en direct de Jérusalem dès le début du journal. Après les autres titres, Agnès.
Municipal, demande d'asile, retraite. Emmanuel Macron donne le la aux parlementaires. Quand décrocher un portrait du président devient un acte légitime, des loyers modérés dans une capitale européenne, c'est possible en Autriche. Les doigts en or des chirurgiens français, spécialistes de la reconstruction des visages des tout-petits. Et puis l'étonnante sérénité du 15 de France à 4 jours de son premier match en Coupe du Monde.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50, Léa.
Il appelle sa majorité à regarder en face le sujet de l'immigration pour ne pas être un parti de bourgeois. Il veut la fermeté sur le détournement du droit d'asile et reconnaît une sécession à l'égard de la République dans certains quartiers. Emmanuel Macron en force sur l'immigration en cette rentrée. Le président chasse sur les terres de la droite. Qu'en pense l'un de ses principaux représentants, Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure, Léa. C'est une information France Inter. Emmanuel Macron a chargé Boris Cyrulnik d'une mission sur les 1000 premiers jours de vie de l'enfant. Le neuropsychiatre sera avec nous à 8h20 tout à l'heure dans le grand entretien. Vos questions à Boris Cyrulnik dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Près de 6,5 millions d'électeurs appelés aux urnes pour élire les 120 députés de la Knesset. Les bureaux de vote sont ouverts depuis une heure. Un scrutin qui a pris des allures de référendum pour ou contre Benjamin Netanyahou au pouvoir depuis 10 ans et qui doit comparaître devant la justice dans un mois. La campagne a été particulièrement dure avec une surenchère verbale de la part du Premier ministre qui a par exemple promis d'annexer une partie de la vallée du Jourdain en cas de victoire. Du jamais entendu pour la journaliste politique vedette de la chaîne la plus regardée d'Israël, Rina Maslia, qui parle d'une campagne dégoûtante.
Imprévisible et dégoûtante, parce que les élections qui viennent un après l'autre, les politiciens deviennent plus nerveux, plus agressifs, des fois les journalistes aussi. Ça fait que les expressions sont plus violentes, l'atmosphère est plus moche, ça fait qu'on se dégoûte.
Bonjour Frédéric Métezeau.
Bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant permanent de France Inter à Jérusalem. Vous avez évidemment suivi cette campagne. Elle a été si violente que ça ?
Oui, Agnès, et pour cause, cette élection sera tout bibi or not bibi, écrit ce matin le journal centriste Jérusalem Post. Pour le Haaretz de gauche, c'est un choix entre le prince des ténèbres et l'âme d'Israël. Pendant toute sa campagne, Netanyahou a donc accusé la gauche et les électeurs arabes de vouloir voler l'élection, qualifié son rival Benny Gantz de brave type au sens négatif du terme, et appelé à boycotter la première chaîne de télé du pays qu'il accuse de fake news et d'antisémitisme. Un candidat sans triste, lui, accuse les ultra-orthodoxes d'être corrompus, aprogains et d'étouffer les affaires de pédophilie. En retour, un grand rabbin ultra accuse les laïcs de vouloir refaire l'Holocauste. Seul Benny Gantz a tenu son langage. Du coup, sa campagne est apparue plus propre, mais aussi plus terne.
Alors Frédéric, il faudra ce soir regarder les résultats avec précision pour envisager les alliances et la formation d'un gouvernement.
On surveillera d'abord les taux de participation. Si les Arabes et Tel Aviv se mobilisent, ce sera mauvais signe pour Netanyahou et inversement. La majorité absolue est à 61 sièges. Ni Netanyahou ni Gantz n'y arriveront. Il faudra donc une coalition et avec 9 listes capables d'avoir des élus, il peut y avoir beaucoup de combinaisons. Un bon score du nationaliste Lieberman en ferait l'arbitre des négociations, car même s'il est très à droite, son discours laïque peut séduire les Israéliens modérés, mais excédés par la pression des ultra-religieux.
Merci Frédéric Métezeau en direct de Jérusalem ce matin pour Inter et les bureaux de vote vont fermer à 21h heure française. Résultat attendu dans la soirée. L'Iran semble bien être à l'origine de l'attaque samedi contre les installations pétrolières en Arabie Saoudite. Déclaration ce matin de Donald Trump qui dit souhaiter éviter un conflit. Pour les automobilistes français, la flambée des cours du pétrole devrait se traduire par une hausse de 4 à 5 centimes le litre dans les jours qui viennent, selon le président de l'Union française des industries pétrolières.
Il est 7h52. 8h05, Agnès, ni arrogance ni immobilisme. Emmanuel Macron a donné le ton de la rentrée hier soir lors d'une rencontre avec les parlementaires de la majorité.
Ne soyons pas un parti bourgeois qui ne voit pas les problèmes des quartiers populaires, a notamment déclaré le chef de l'État, qui s'inquiète de la hausse des demandes d'asile et entend ouvrir le débat sur la politique migratoire. Nous y viendrons dans le journal de 8h. Prudence et concertation sur le dossier des retraites. Emmanuel Macron a également évoqué les municipales de l'an prochain et la nécessité du rassemblement. La réunion s'est tenue à huis clos, mais à la sortie, Aurore Berger, députée des Yvelines et porte-parole de La République En Marche, a rapporté les propos du chef de l'État.
Un appel pour le mouvement à ne jamais se diviser, en rappelant qu'il y avait un vrai péché mortel en politique qui était la division, et que faire courir le risque de la division, c'est faire courir le risque de la défaite. Et je crois que le message est passé de manière très claire.
Il a évoqué à mots couverts le cas de Cédric Villani et de Benjamin Griveaux à Paris.
Je crois que c'est vous qui en tirez les conclusions qui s'imposent, mais de fait, il l'a redit, on a une commission nationale d'investiture. Cette commission nationale d'investiture, elle statue, elle a déjà statué par le passé. Elle nous a permis de devenir députés. Donc le système qui a fonctionné, qu'on trouvait vertueux il y a 2 ans, on peut le trouver tout aussi vertueux aujourd'hui, quand bien même on n'est pas choisi.
Le propos recueilli par Marc Potvin, Emmanuel Macron qui a enfin salué chaleureusement Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale mis en examen la semaine dernière. Emmanuel Macron, dont le portrait est accroché en principe dans toutes les mairies de France, même si ces derniers mois, les décrocheurs sévissent, ces militants pour le climat qui enlèvent le portrait du président pour dénoncer l'inaction du gouvernement, des décrocheurs qui, lorsqu'ils sont interpellés, écopent d'amende, jusqu'à hier soir, et le jugement du tribunal correctionnel de Lyon qui a légitimé l'action des décrocheurs, un vrai précis de désobéissance civile. Corinne Audouin.
Le portrait d'Emmanuel Macron a bien été volé à Lyon le 21 février dernier. L'infraction est constituée, mais pour le juge, le motif pour s'en emparer était légitime. Le dérèglement climatique est un fait constant qui affecte gravement l'avenir de l'humanité, détaille le jugement, qui rappelle, chiffre à l'appui, que l'État n'a pas tenu ses engagements de réduction des gaz à effet de serre. Face à ce défaut, le mode d'expression des citoyens en pays démocratique ne peut se réduire au vote, écrit le magistrat, mais doit inventer d'autres formes de participation dans le cadre d'un devoir de vigilance critique. Quelques passages sont savoureux. Décrocher ce portrait, philosophe le juge, c'est le substitut nécessaire du dialogue impraticable entre le président de la République et le peuple. N'en jetez plus, pas sûr que cette analyse résiste à un procès en appel, mais le magistrat, par ailleurs juge d'instruction, a sans doute voulu démontrer que l'indépendance de la justice, c'est comme la liberté de la presse, ça ne s'use que si l'on ne s'en sert pas.
L'avenir d'Aigle Azur en sursis, la justice donne aux potentiels repreneurs jusqu'à demain soir pour déposer leur offre qui sera ensuite négociée. Le tribunal de commerce d'Ivry a prononcé hier la mise en liquidation judiciaire de la compagnie aérienne, mais avec une poursuite d'activité jusqu'à la fin du mois. Plus de 10 000 euros le mètre carré en moyenne à Paris. La hausse des prix du logement semble inéductable dans les capitales européennes et pourtant, à Vienne, où 80% des habitants sont locataires, le prix du mètre carré à la location est de 9,80 euros contre 27,80 euros. À Paris, des prix donc 3 fois moins chers, selon le cabinet Deloitte, qui s'explique par une politique volontariste initiée il y a 100 ans et qui passe par une offre abondante de logements sociaux. Reportage d'Isorias.
À Vienne, une habitation sur 4 est un logement communal, c'est-à-dire un logement social qui appartient à la municipalité. La plupart sont situés en ville et non en banlieue et sont accessibles aux plus précaires, mais aussi à ceux qui gagnent jusqu'à 3 300 euros par mois afin de favoriser la mixité sociale. Christian y vit depuis 30 ans.
Je paye chaque mois 290 euros pour ce 58 mètres carrés. L'appartement n'est pas très grand pour deux, mais je m'y sens bien. Les alentours sont super, il y a la nature, c'est agréable de vivre ici.
À ces logements communaux s'ajoutent 200 000 appartements construits par des promoteurs qui proposent des loyers modérés en échange d'une aide financière de la ville. Résultat, 60% des Viennois vivent aujourd'hui dans une habitation à loyer plafonné.
C'est évident que ça a un impact sur le marché du logement dans le privé.
Bojan Schnabel travaille à l'unité de recherche sur le logement de la ville de Vienne.
Parce que tout propriétaire privé saura que le marché est restreint pour lui et s'il veut être compétitif, il devra s'aligner un peu.
Mais comme ailleurs, depuis 2008, les loyers ont fortement augmenté dans le privé. Vienne vient donc d'imposer une nouvelle règle. Toute nouvelle construction de plus de 5000 m² devra être constituée d'au moins 2/3 de logements subventionnés à loyer modéré. Vienne Isorias, France Inter.
C'est une chirurgie impressionnante, la chirurgie du crâne et du visage des tout-petits. Et la France est à la fois pionnière et en pointe dans ce domaine. 4 à 500 enfants sont ainsi opérés chaque année de malformations dans l'Hexagone. Des vies sauvées ou tout simplement rendu possible grâce à la dextérité de chirurgiens qui officient notamment à l'hôpital Necker où s'est rendue Véronique Julia.
Regardez, là, une pauvre petite jeune femme, elle a les yeux qui apparaissent complètement exorbités. On a découpé toute la boîte crânienne et j'ai avancé tout son squelette facial. Il y a 40 ans, il fallait 12 heures pour faire cette opération. On arrive à faire ça en 3h30.
Maladie de Crouzon, syndrome de Pfeiffer pour les maladies génétiques, problème de soudure crânienne sans raison génétique durant la vie utérine. Éric Arnaud est chirurgien à l'hôpital Necker à Paris. Plus de 20 ans qu'il opère ces maladies rares qui déforment les visages. Des yeux exorbités, trop écartés, une base de nez trop large, un crâne déséquilibré. Parfois, une seule intervention suffit. Dans de plus rares cas, il faudra opérer plusieurs fois jusqu'à l'âge adulte. On opère en tout cas le plus tôt possible pour éviter les séquelles mentales, visuelles et psychologiques.
Le cerveau a une fantastique capacité de remodelage et d'expansion pendant la première année de vie. Donc, c'est plus simple sur un plan technique, mais surtout plus pertinent sur le plan du développement mental et cérébral d'opérer avant l'âge d'un an.
Le résultat est spectaculaire, mais la cicatrice restera discrète.
Quand il s'agit d'opérer un orbite, ça se fait par une incision au milieu des cheveux et ça permet d'ouvrir la boîte crânienne et de découper les os. Pour un peu qu'il y ait quelques cheveux après, cette incision dans le scalp, elle est invisible.
Un visage reconstruit pour une vie presque normale. D'anciens patients passent le bac cette année, commente fièrement Éric Arnaud. Et Paris accueille jusqu'à demain 500 intervenants venus de 40 pays pour le Congrès international de chirurgie crânio-faciale des malformations de l'enfant. Coup d'envoi ce soir de la phase de groupe de la Ligue des Champions, c'est du foot. À 19h, Lyon accueille le Zénith Saint-Pétersbourg et à 21h, Lille affronte l'Ajax Amsterdam. Les volleyeurs français, eux, continuent de survoler la phase de groupe de l'Euro avec une nouvelle victoire 3-7-0 hier soir face à la Bulgarie.
Et puis la tension monte, Agnès, au Japon à 4 jours du premier match des rugbymen français en Coupe du Monde.
Eh bien, pas vraiment la tension, car les Bleus semblent étonnamment sereins avant la rencontre contre l'Argentine. Une défaite serait pourtant de très mauvais augure, mais le 15 de France affiche sa force et sa détermination, comme a pu le constater Fanny Lechevestrier, envoyée spéciale de France Inter au Japon.
Cela peut surprendre au vu des derniers résultats, mais eux n'ont guère de doute, à l'image du sélectionneur Jacques Brunel.
De l'avis unanime, on ne va pas sortir des poules. Donc notre premier challenge, ça va être celui-là, de montrer qu'on est capable de sortir des poules. Mais on a des convictions.
Et à force d'entendre ce discours jour après jour depuis notre arrivée au Japon, on a presque envie d'y croire, convaincu aussi par ces rires omniprésents lors des séances d'entraînement pourtant intenses. La clé tient peut-être à ces petits jeunes comme Penaud, Ramos ou Antamac, hermétiques à la pression et qui apportent un vent de fraîcheur à cette équipe, explique l'ancien Camille Lopez, 30 ans.
Non, la pression, ils l'ont pas du tout. Et c'est vrai que c'est assez rigolo des fois, parce que tu te dis... Ils ont la déconne facile et c'est leur manière de fonctionner. Nous, on a grandi dans autre chose où les anciens nous tapaient un peu plus sur les doigts ou voilà, c'était des choses différentes, mais faut laisser cette insouciance qu'ils ont et justement, c'est une de nos forces.
L'insouciance ou l'art, selon Honoré de Balzac, de se balancer dans la vie comme sur une escarpolette sans s'inquiéter du moment où la corde cassera et en espérant que la balance, elle, mène sur le toit du monde. À Fuji Yoshida, Fanny Lechevestrier, France Inter.
Et France Argentine, ce sera donc samedi matin à 9h15, heure française.
Merci Agnès Soubiran.